Je suis très content d'être ici. Donc effectivement, je vais vous parler d'intelligence artificielle, mais on ne va pas parler de choses forcément trop techniques, même si à un moment donné, pour vous faire comprendre certaines choses, je serai obligé d'y aller un petit peu dedans. Mais je vais surtout vous parler de questions qui, à mon sens, sont intéressantes parce qu'elles touchent tous les domaines des sciences humaines actuellement. Et donc ce sont des questions d'éthique qui sont liées à l'utilisation, la programmation, et la manipulation de techniques d'intelligence artificielle de manière générale. Alors, j'ai l'habitude que les cours ou les conférences que je donne soient éventuellement dynamiques. Donc, si jamais, pendant que je déblatère, vous dites « je ne comprends pas », vous me faites signe, et on a le droit de s'arrêter et puis de poser des questions. Voilà. On va essayer de se réserver quand même peut-être un temps vers la fin pour discuter, si vous voulez qu'on revienne sur des choses un peu plus précise, et on fera peut-être une petite pause au milieu, voilà, le temps de reprendre notre souffle d'ici une petite heure. Voilà. J'ai pas mal de diapositives. Je vais peut-être pas forcément m'attarder sur toutes. Je sauterai peut-être des parties, parce qu'on peut rallonger ou raccourcir cette discussion un petit peu à volonté. Mais en revanche, ce que je me propose, c'est éventuellement de vous transmettre plus tard un lien où vous pourrez télécharger la présentation. Voilà, qu'on est loin, je comprends ici, l'écran n'est pas très grand, donc on peut se perdre. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous avez peut-être entendu parler depuis quelques années d'un certain nombre de réalisations qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle qui ont été assez médiatisées. Une des plus anciennes qui apparaît, on va dire, clairement dans notre vie de tous les jours, c'est tout ce qui concerne les véhicules autonomes. Alors, on a beaucoup parlé de la Google Car de manière générale. Et puis, un peu après, il y a eu une IA qui s'appelle Watson, qui est une IA qui joue au Jeopardy. Alors, j'imagine que vous connaissez peut-être ce jeu. Hein, c'est un jeu de questions-réponses inversées. On va donner une réponse et il faut deviner la question. Voilà. Ce qui est un peu plus difficile qu'évidemment de donner une réponse quand on pose une question. Voilà. Et Watson a pulvérisé tous les records et a battu des champions de Jeopardy. Oui, ça existe. Assez aisément. Plus récemment, il y a eu Tay. Tay, c'était une IA qui tweetait. Donc, elle analysait des fils de discussion sur Twitter et puis tweetait à son tour de manière à avoir le plus de followers possible. D'accord ? Et alors c'est assez rigolo, j'y reviendrai, mais il s'avère que Tay s'est mis, en analysant les fils de discussion, à proférer des insultes racistes, sexistes, de manière générale. Voilà, c'est ce qu'elle a appris en lisant les fils de discussion. Et puis plus récemment, il y a eu AlphaGo, hein, qui est développé par une filiale de Google. Donc AlphaGo, c'est une IA qui joue au Go et qui a été très médiatisée puisqu'elle a pulvérisé aussi des grands champions de Go de manière générale, et très très performante. Et on considérait que le Go était un problème extrêmement difficile, on ne savait pas encore le résoudre bien. Et un peu à la manière de Deep Blue dans les années 90, AlphaGo joue son rôle avec le jeu de Go. Donc voilà, il y a eu beaucoup de battages en fait autour de ces techniques d'intelligence artificielle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les quatre que je vous présente ont été développées par des entreprises privées. C'est peut-être ça qui a aussi motivé le fait qu'elles soient très médiatisées. Mais de manière générale, en fait, la question de l'IA est entrée un peu dans le champ médiatique et aussi, depuis quelques années, dans le champ des recherches en sciences humaines, parce qu'on va se poser les questions de l'usage de ces techniques de manière générale. Voilà. C'était pour vous positionner un petit peu le contexte. Alors, je parle d'IA, mais en fait, c'est quelque chose d'assez récent. Récent au sens dans les temps scientifiques. C'est-à-dire que la question de l'IA, elle s'est posée, en fait, dès la préhistoire de l'informatique. En fait. Est-ce qu'on peut avoir des machines qui soient capables de raisonner, de penser, de construire un plan ou une stratégie à la manière d'un être humain. Et là, je vous mets deux photos de père et mère fondateur, fondatrice de l'informatique, et du coup aussi un peu de l'intelligence artificielle, qui sont Ada Lovelace et Alan Turing. Alors Alan Turing, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il y a eu un film il n'y a pas très très longtemps sur lui. Et donc il a beaucoup contribué, on va dire, à l'informatique moderne. Mais les premières questions en termes d'informatisation de machines remontent en fait à un siècle avant lui, quasiment, en Angleterre. Et un ingénieur du nom de Charles Babbage avait construit ce qu'il appelait une machine à différence. C'était donc une première forme d'ordinateur. Il l'avait en tout cas imaginé. Et Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron, le poète. Donc, c'est intéressant, hein, mathématiques, poésie, hein, les choses se rejoignent. Elle était mathématicienne, ce qui était assez rare pour une femme à l'époque, dans une Angleterre victorienne extrêmement pudibonde. Et elle a beaucoup contribué parce qu'elle a écrit des programmes pour la machine qu'avait imaginé Charles Babbage. Voilà. Et ces deux personnes se sont posées très tôt la question: est-ce qu'une machine est capable de penser ou de développer un raisonnement intelligent? Et tous deux ont proposé des réponses qui étaient radicalement différentes. Ada Lovelace se disait non, c'est pas possible, parce qu'en fait, en pratique, une machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de faire tout ce qu'on sait faire de manière telle qu'on puisse le décrire précisément pour la machine. Donc si on donne des instructions à une machine, qu'elle produit un résultat, nécessairement le résultat qu'elle va produire va être quelque chose qu'on aura su faire puisqu'on l'aura programmé pour ça. D'accord. Voilà. C'était son positionnement. Turing avait un positionnement un petit peu différent et disait plutôt que, en fait, la question de l'intelligence était une question pas très un peu vide en soi, puisqu'on est intelligent en fonction de la personne qui nous observe. L'intelligence se regarde à l'aune de l'observateur. Et donc sa position était de dire, mais en fait, une machine est intelligente dès le moment où une entité intelligente la reconnaît comme étant elle-même intelligente. D'accord. Donc c'est ce qu'il appelait un jeu d'imitation qui a conduit à conceptualiser quelque chose qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test dans lequel on met un utilisateur face à un écran. Il doit converser soit avec une machine, soit avec un autre être humain, par écran interposé, et il doit deviner, à l'issue de la conversation, d'un temps fixé, si c'est un humain avec qui il a discuté ou une machine. Voilà. C'est un test parmi d'autres, hein. Il y en a plein d'autres pour essayer de caractériser ce qui peut être intelligent ou non. Mais voilà, ces deux personnes se sont posées ces questions-là très tôt, et la question de l'intelligence artificielle est née en même temps que l'informatique classique, théorique, la programmation. D'accord ? Voilà. Alors, l'IA a vraiment, je veux dire IA de temps en temps, c'est plus court, hein, est vraiment née au milieu des années 50, d'accord ? En fait, à la mort de Turing, à peu de choses près. Et en fait, l'IA, c'est un domaine qui est très, très vaste. Très vaste. On pourrait choisir plein d'applications distinctes, de techniques distinctes, et puis faire tout un cours, toute une discussion dessus. Ce que je vais vous dire est une simplification un petit peu extrême, mais en fait, l'IA, c'est plutôt un bestiaire de techniques et d'applications. D'accord ? C'est quelque chose d'assez flou. J'ai un ami chercheur qui se plaît à dire que l'intelligence artificielle, c'est tout ce que l'informatique ne sait pas bien faire aujourd'hui, et que sitôt qu'on sait bien le faire, eh ben, en fait, c'est plus l'intelligence artificielle. Un petit peu au sens de Lovelace, hein, une fois qu'on a compris comment les choses marchaient, ben, finalement, l'aspect mystérieux et l'aspect intelligent disparaît au profit de la mécanique. Mais en tout cas, il y a trois grands piliers, trois grands sous-domaines, sous-disciplines à travers l'IA. Tout ce qui va être ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est-à-dire comment une machine, étant donné un certain environnement dans lequel elle est plongée, va être capable de prendre une série de décisions pour atteindre un but ou un objectif. D'accord. Et Là, vous voyez la petite image, ici, c'est McCarthy, c'était un chercheur américain, qui, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, donc qui est en train de jouer aux échecs, et il a beaucoup travaillé sur les algorithmes de jeu aux échecs, parce que c'était un petit peu la drosophile d'intelligence artificielle. Et tout ce que fait AlphaGo se place aujourd'hui dans ce domaine-là, en fait. Voilà. Il y a un deuxième pan qui est très important, et je vais à l'autre bout de la diapo, sur la question du raisonnement automatisé. L'intelligence artificielle, c'est aussi comment concevoir un raisonnement, que ce soit un raisonnement mathématique, prouver des théorèmes, mais que ce soit raisonner sur des questions floues, par exemple concevoir un moteur de recherche sur Internet, récupérer de l'information, de documents, l'analyser. Voilà. Donc il y a toute une catégorie de travaux qui sont liés à ça. Et entre les deux, on s'est rendu compte que, on y reviendra, mais pour pouvoir planifier de manière stratégique et pour pouvoir raisonner, il faut donner des informations à votre machine. La machine, c'est sans doute la plus bête de toutes les personnes présentes ici, et il faut lui donner tout, absolument tout. Les règles, le contexte dans lequel elle évolue. Et beaucoup de gens aujourd'hui, et même depuis longtemps, se sont posé la question, mais est-ce qu'on peut permettre à une machine d'apprendre? C'est-à-dire qu'on ne va pas lui décrire complètement le monde dans lequel elle doit évoluer, mais par peut-être un jeu d'essais, d'erreurs, de comparaison, essayer de découvrir, de comprendre les règles de ce monde pour pouvoir ensuite y calculer des décisions ou raisonner dessus. D'accord. Et ça, c'est tout le pilier de l'apprentissage artificiel. Et des grandes réalisations, effectivement, comme AlphaGo ou Watson, ou Tay, en fait, utilisent des techniques d'apprentissage artificiel. Voilà. Et parmi tous les domaines de l'IA, c'est vraiment celui-ci qui a un peu le vent en poupe aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour vous situer un petit peu les choses. Mais un point important, c'est que, avec ces réalisations assez médiatisées, on commence à se rendre compte qu'on est en train de concevoir, de manière générale, des systèmes qui sont autonomes, c'est-à-dire qui vont être capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Alors, reste à savoir ce que signifie eux-mêmes, bien sûr, qui vont être en interaction de plus en plus souvent avec des êtres humains. Je vais vous prendre l'exemple de la voiture autonome, de la Google Car. Effectivement, si on veut pouvoir déployer ce type de véhicule dans les villes, d'accord, eh bien, il va falloir pouvoir interagir, prendre en compte le fait que le véhicule va être dans un flot où il y aura d'autres véhicules autonomes, d'autres véhicules qui ne seront pas autonomes, qui seront contrôlés et pilotés par des humains, dans lesquels il y aura des passants, d'accord, qui peuvent parfois respecter les feux, parfois ne pas les respecter, qui peuvent faire peut-être tout et n'importe quoi sur la voie, des animaux, et ainsi de suite. D'accord. Donc, votre machine, elle n'est pas toute seule. Elle est plongée dans un environnement dans lequel il peut y avoir de l'incertitude, de l'imperfection, et puis dans lequel il y a des êtres humains, avant tout. Je vous ai donné ici quelques images parce que ça permet un peu d'illustrer les choses, mais il y a beaucoup de travaux qui se font, en particulier, alors je prends l'exemple du Japon, pour pouvoir déployer des robots dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Japon a actuellement un gros problème de vieillissement de population, et il se pose sérieusement la question comment faire pour pouvoir s'occuper de toutes ces personnes âgées. Et ils n'ont pas tout à fait le même rapport que nous aux machines, à la robotique, mais ils ont dit, finalement, utilisons des machines pour pouvoir s'en occuper. Et donc là, vous avez un robot qui a l'air sympathique avec cette petite bouille de gros ours qui doit porter des patients dans des hôpitaux. Voilà, donc toute la technique, c'est arriver à développer une machine qui va pouvoir porter un patient en prenant soin de ce dernier, d'un lit, un fauteuil roulant ou un autre lit. Donc là, bien sûr, il y a une interaction avec un humain, évidemment. Juste à côté, je vous ai mis une autre image qui est ici, ce que vous voyez, ce n'est pas du tout un robot pour s'occuper des malades. Bien au contraire, c'est un système d'armes automatisées Alors, je ne sais pas exactement quel type d'arme il y a dedans, mais bon, voilà, on peut imaginer que c'est pas des plus sympathiques. Et en tout cas, voilà, c'est une machine qui est programmée pour détecter des humains qui vont venir passer dans des zones interdites et les cibler. Et éventuellement, je ne connais pas le détail, mais éventuellement tirer. D'accord ? Donc on peut se poser aussi la question, ce type de machine, comment, déjà, est-ce qu'il faut les construire ou pas ? Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? D'accord ? Vous avez sans doute aussi beaucoup entendu parler des questions des drones, d'accord ? Qui peuvent être des drones de reconnaissance, mais aussi des drones d'attaque. Et il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui, beaucoup d'états-majors qui rêveraient d'avoir ce genre de choses. Donc il faut se poser la question, encore une fois, quand on les développe, qu'est-ce qu'on en fait ? Et même de manière plus prosaïque, des systèmes automatisés de régulation qui servent pour la police, les forces de l'ordre, les gens qui contrôlent les contraventions. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et à côté, vous avez quelque chose de plus désincarné, parce que l'IA, ce n'est pas seulement des machines, ça peut être aussi du logiciel qui est en train de tourner. Et là, vous avez une espèce de représentation vaguement abstraite d'un agent de trading à haute fréquence. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais une grande, grande majorité des transactions boursières aujourd'hui ne sont pas faites par des traders humains. Enfin, il y en a, mais ils sont derrière des écrans, ils ne font absolument rien, mais par des machines qui vont prendre automatiquement des décisions de savoir s'il faut vendre ou acheter des actions. Et ce, bien sûr, à une vitesse considérable, puisque le but est de générer le plus de volume de transactions possible, d'accord, pour pouvoir augmenter le profit des banques. Et des fois, quand la machine n'est pas très bien codée ou qu'elle se trouve dans certaines situations un peu limites, elle peut se mettre à prendre des décisions qu'on peut considérer rationnel de son point de vue, c'est-à-dire vendre des actions qui descendent un petit peu, mais du coup, les autres machines qui sont sur le réseau voient exactement la même chose, font pareil, et il y a une espèce d'emballement. Et donc, il y a eu, dans les années passées, des séries de petits cracks boursiers, en fait, qui sont dus à ces machines. Voilà. Mais là aussi, ça a des impacts, puisque derrière un crack boursier, ben, en fait, il y a des humains, il y a des économies, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui peuvent se retrouver en liquidation ou non. D'accord ? Voilà. Plus généralement, je vous donne d'autres pistes. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur la question de la justice prédictive. Bon, comment est-ce qu'on fait pour rendre des décisions de justice, et ce, de manière automatique ? D'accord ? En s'appuyant sur de la jurisprudence, des cas similaires, et ainsi de suite. Beaucoup de banquiers aujourd'hui ont bien envie d'avoir des systèmes qui utilisent un peu le même genre de technologie pour pouvoir apprendre de manière automatique qui est solvable ou non, pour savoir si vous faire un prêt ou non. Voilà. Bon, ben là encore, on peut se poser la question, qu'est-ce que ce type de système, comment est-ce qu'ils sont développés, comment est-ce qu'ils sont déployés, pour quels usages ? Voilà. Donc c'est pour ça que vraiment il y a un certain nombre de questions, je pense, qui, au-delà des aspects techniques, touchent des questions de sciences humaines. Et donc voilà aussi pourquoi je pense c'est important d'échanger là-dessus. De manière générale, on peut se demander comment s'assurer qu'un agent artificiel, donc une machine, je vais parler d'agent de manière générale, intelligent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas qui utilise des techniques d'intelligence artificielle, qui a un certain nombre d'objectifs à remplir, maximiser le gain boursier de ses commanditaires par exemple, ou s'occuper des patients, d'accord, ne va pas causer de mal à d'autres agents, qu'ils soient humains ou artificiels, qui ne mentent pas, par exemple, on aimerait se poser ces questions-là, et qui soit capable de raisonner sur des notions de responsabilité de ses propres actions. Voilà, on peut se poser ces questions-là. Et en particulier, lorsqu'il y a des humains qui vont interagir avec lui, et on sait que dans ce cadre-là, on a des décisions qui peuvent parfois nécessiter de tenir compte de facteurs culturels, compassionnels, voire de facteurs éthiques. Voilà. Donc comment est-ce qu'on construit et est-ce qu'on déploie des machines qui font ça ? Alors, il y a un domaine de recherche qui est en train de naître. Là, ça fait, on va dire, 4 ans que c'est en maturation, qu'on appelle l'intelligence artificielle responsable, qui se place un petit peu dans la suite de la question de l'éthique professionnelle liée à la conception de systèmes qu'on applique un petit peu aujourd'hui à l'IA. Il faut savoir que depuis, on va dire, au moins les années 60, il y a des éléments et des réflexions autour de l'éthique professionnelle dans le domaine de l'informatique. Je vous ai mis ici quelques liens si vous voulez aller voir. Bon, il y a des. Alors, il y a l'association pour l'informatique américaine qui fait ce genre de choses. On a la CNIL aussi qui essaye de donner des recommandations, en tout cas dans l'usage des systèmes d'information. Et donc plus récemment, l'intelligence artificielle responsable, c'est un domaine qui essaie de se poser trois grands types de questions. Comment est-ce qu'on s'assure de l'intégrité des chercheurs, des constructeurs et des développeurs qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle? Quelles sont les implications, alors, à la fois sociologiques et à la fois cognitives, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein. Si on n'a plus que des robots qui s'occupent de nous dans les hôpitaux, quel rapport est-ce que ça induit sur les patients, sur leur mode ou leur capacité de guérison, alors qu'on sait que le rapport humain semble avoir une influence aussi sur la guérison des patients. Donc, voilà. Il y a tout ce type de questions qui se posent. Donc vous avez d'un côté voilà, des gens qui peuvent travailler dans le domaine de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie, qui peuvent s'intéresser à ces questions-là. Et puis, on a un troisième volet dans lequel moi je travaille, qui est comment est-ce qu'on fait pour implémenter, donc coder, programmer des capacités de raisonnement éthique à des machines. D'accord ? Voilà. Donc c'est de ça que je vais vous parler, essentiellement. Alors, le menu, c'est celui-ci, mais je vais pouvoir peut-être couper certaines parties, on verra un petit peu en fonction du temps. Je vais essayer de m'auto-réguler là-dessus. Je vais revenir pour essayer de définir un peu plus précisément ce qu'on appelle agent artificiel intelligent, d'accord ? Pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Et donc, je vous expliquerai les grandes techniques d'intelligence artificielle, d'accord ? Je ne vais pas aller dans le détail, mais au moins vous donner les aspects conceptuels. Et voilà. Ensuite, je vous parlerai un peu de prise de décision éthique. Donc là, on viendra un peu sur des choses plus philosophiques. Je ne suis moi-même pas philosophe, donc je vous donnerai dans les grandes lignes ce que j'en ai compris, les points à retenir. Mais évidemment, il faudra m'excuser de certaines approximations parfois. Une partie centrale que je vais sans doute sauter en fonction du temps, c'était plus des choses un peu techniques sur comment est-ce qu'on fait concrètement pour implémenter ce genre de choses. Mais surtout, je voudrais vous parler aussi en dernière partie de l'impact en fait qu'ont les formes des robots ou des intelligences artificielles sur la manière dont nous, humains, en fait, on va accepter ou non leurs décisions. Voilà. Et enfin, je parlerai un petit peu de droit. Je suis pas juriste, mais ça pose aussi des questions. Voilà, donc je vous essaie de vous donner quelques éléments. Donc, vous voyez, on est dans un domaine en fait très très pluridisciplinaire. L'IA est déjà pluridisciplinaire avec une grosse tendance évidemment en informatique et en maths, mais là c'est un petit peu plus général. Alors, c'est quoi un agent artificiel intelligent ? Voilà. Vous avez ici deux petites images de robots sur lesquels des collègues de mon laboratoire travaillent. Donc vous avez ce qu'on appelle tout en bas un micro-trooper, c'est un espèce de petit robot à roues. Hein. Voilà, c'est un objet concret. Hein. Il ne sait pas faire grand-chose, hein. Il sait rouler et puis, avec quelques caméras et quelques lasers, observer son environnement et prendre des photos. Voilà, c'est à peu près tout. Et on essaie de le programmer pour qu'il fasse de la cartographie. Et en haut, vous avez un Cadomus. Donc Cadomus, c'est une espèce de Segway. Hein. Vous savez, c'est une espèce de machine sur laquelle on peut se balader. On a mis dessus un ordinateur et on l'a mis dans quelque chose de rond pour lui donner une allure sympathique. Et il est censé guider des gens dans des centres commerciaux. Voilà. Répondre à des questions, où sont les toilettes, par exemple, et guider la personne jusqu'aux toilettes, voilà. En détectant si la personne le suit bien ou pas. C'est plutôt ça la chose délicate. Voilà. Un agent intelligent, je vous ai dit, c'est un bestiaire. C'est un bestiaire parce que, en fait, on peut retrouver des techniques d'IA qui doivent prendre des décisions un peu partout. D'accord ? Un agent, ça peut être un robot. D'accord ? Vous voyez cette espèce de scolopendre, là, mécanique. Mais il peut être lui-même composé de petits robots, de petits agents à l'intérieur. D'accord ? En fait, chaque nœud, chaque rond que vous voyez du robot est un robot indépendant. Ils peuvent se coller les uns aux autres pour construire une machine plus complexe. C'est ce qu'on appelle un système multi-agent. Voilà. Vous avez des agents qui ne sont pas du tout robotisés, mais complètement virtuels. Là, ici, vous avez une représentation de ce qu'on appelle un agent conversationnel. Donc c'est une machine qui doit répondre à des questions d'un humain. Et on essaie de lui faire passer souvent un peu les fameux tests de Turing. Voilà. Vous avez à côté ici, alors là c'est moins sympathique, c'est une capture d'écran d'un concours que la NSA met en place tous les ans. C'est un concours de hacking par des IA. Donc là vous avez ce que vous voyez, les espèces de boîtes, c'est des réseaux qui sont contrôlés par des intelligences artificielles et leur objectif c'est de bombarder les réseaux d'à côté et de les paralyser. Bon, ça aussi, c'est une forme de système multi-agent. Donc, ça peut être quelque chose de très désincarné. Et puis, vous avez aussi des robots fort peu complexes. Là, c'est des kilobots. Kilobots, c'est un petit robot, c'est grand comme ça, à peu près. Et on est capable de les programmer pour qu'ils prennent des formes diverses et variées. Il y a quelques artistes qui se servent de ce genre de choses pour faire des sculptures numériques. Voilà. Les IA, hein, ça peut aller du lave-linge intelligent jusqu'au robot humanoïde qui va venir faire vos courses. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très très large. Ce qui est important de noter, c'est que en fait, il faut vraiment opposer la question de l'automatisation à la question de l'autonomie. Et c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Nous, on a des systèmes et on veut penser des systèmes autonomes et pas des systèmes automatiques. D'accord ? La différence, c'est la suivante. Un système automatique, c'est un système qui va être capable d'exécuter des tâches techniques sans intervention humaine, à condition qu'on lui ait décrit la manière, l'ordre des tâches qu'il doit accomplir. D'accord ? Si vous prenez une machine à laver, elle est programmable, elle est automatisée, et ce que vous allez faire, vous allez dire, je veux le programme numéro 3, et puis on a codé et programmé l'ensemble des étapes que la machine doit réaliser pour pouvoir laver le linge. Et puis, s'il y a un problème en cours d'exécution, on a programmé ce que la machine doit faire pour s'arrêter et éviter que le linge soit complètement détruit. L'autonomie, c'est un peu différent. C'est que cette fois, on va juste donner à la machine une description de l'état de départ dans lequel elle est, de but, d'accord, de ce qu'elle doit obtenir, et on va lui demander de calculer automatiquement l'ensemble des actions qu'elle doit faire pour pouvoir atteindre le but. D'accord ? Donc en fait, l'IA, c'est quoi ? C'est construire le script dont on avait besoin pour le système automatisé. Vous voyez ? Là, donc ça, c'est l'idée générale. Donc, petit exemple, je vous parlais du lave-linge, et là, c'est une représentation, c'est une vue d'artiste, hein, du robot explorateur Curiosity, mais qui ressemble d'assez près au micro-trooper qu'on avait. Lui, il est autonome parce que son objectif, c'est de calculer en temps réel des chemins, d'accord, pour pouvoir se déplacer sur le sol martien. On ne lui a pas dit, quand tu rencontres un caillou, va à gauche, va à droite, on ne l'a pas programmé pour ça. Il doit le calculer en temps réel, éviter les obstacles, et il doit agir dans un environnement qui lui est inconnu. Mais on lui a donné quand même des règles d'action, de déplacement. Voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Et c'est pas l'automatisation qui pose des vraies problématiques, c'est plutôt l'autonomie, fondamentalement. Puisque, en fait, le cours des actions de la machine, on ne les connaît pas à l'avance. D'accord ? Et on va laisser la machine les calculer. Okay. Alors, pour pouvoir se représenter le monde, d'accord, notre agent il va devoir raisonner. D'accord ? Donc là, on va entrer un petit peu dans les détails, et je vais vous donner tous les éléments qu'on doit mettre dans une IA pour que ça fonctionne, de manière générale. D'accord ? Donc, votre machine, elle doit se représenter l'endroit dans lequel elle est, ce qu'elle doit faire, d'accord ? Par ce qu'on appelle des états. Un état, c'est une combinaison de toutes les caractéristiques possibles du monde dans lequel se trouve la machine. D'accord ? Par exemple, ici, la porte est fermée, toute chose étant égale par ailleurs, c'est un état. Si on ne change absolument rien à la salle, d'accord, à votre position, à la position où je suis, mais qu'on ouvre la porte, c'est un deuxième état. D'accord ? Maintenant, si je suis là et là maintenant, en fait, il y a deux états supplémentaires. D'accord ? J'ai l'état où la porte est ouverte et moi ici, l'état où la porte est fermée et moi ici, l'état où la porte est ouverte, moi ici, l'état où la porte est fermée, moi aussi. D'accord ? Donc j'ai rajouté une caractéristique, j'ai parlé de moi, et j'ai multiplié par deux le nombre d'états possibles. D'accord ? Donc en fait, le nombre d'états peut être relativement grand. Et certains états sont des buts. Et on va dire à la machine, ben voilà, voilà une description des états que tu dois atteindre. D'accord ? Et ça, ça va décrire nos buts. Donc, et puis on va donner à notre machine des actions. Des actions, c'est une description de ce qui lui permet de passer d'un état à l'autre. D'accord ? La plupart du temps, on est sûr, on peut se dire qu'elles sont déterministes. D'accord ? Je vais faire une action, et ben, je vais forcément passer dans un état que je connais. Et puis des fois, on peut manipuler des probabilités. Je vais ouvrir la porte. Et bon, dans 90% des cas, la porte sera ouverte après avoir fait l'action ouvrir la porte. Et dans 10% des cas, j'ai bugué, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais la porte reste fermée. Et ça, je peux le représenter. Okay. Et puis, on peut représenter des choses très complexes. On peut représenter du temps qui passe, du temps qui s'écoule, des croyances. On peut dire, ma machine, elle croit qu'elle est dans cet état-là. Mais elle sait que c'est bien qu'une croyance, peut-être qu'il y a autre chose qui est à côté. On peut représenter aussi des normes, des obligations, des interdictions. On peut représenter parfois des émotions. Alors, quand je dis représenter des émotions, c'est vraiment toujours une simplification des choses, d'accord ? Par exemple, là, la crainte, on peut se dire voilà, qu'un agent, il va ressentir, alors je l'ai mis entre guillemets parce qu'il n'y ressent pas vraiment, mais en tout cas, un agent peut dire qu'il est dans un état de crainte si il croit qu'un certain événement va se produire et qu'il ne désire pas cet événement. Ne pas désirer cet événement, ça veut dire qu'il n'est pas dans les buts. D'accord ? Donc vous voyez, on a des problématiques de modélisation comme ça, on essaie de représenter le monde pour notre machine. Ok ? Et des fois, on peut représenter des choses assez amusantes. Un petit exemple, là, sur le mensonge. Ici, il y a des gens qui ont travaillé sur modéliser le mensonge. Comment est-ce qu'une machine peut raisonner sur le fait qu'elle mente ou pas ? Voilà. Alors, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais on peut dire qu'on ment quand un agent A va dire à un agent B une certaine formule, alors c'est des formules logiques, mais ce n'est pas très important, une certaine chose phi, et que A sait que phi n'est pas vrai, et que A a l'intention que B croit phi. D'accord ? Voilà. Donc on peut représenter vraiment des choses assez complexes et assez fines. Et ce qui était assez rigolo dans ce travail-là, c'est que finalement, les auteurs en avaient tiré des principes d'agents menteurs, comment est-ce qu'on pouvait penser et concevoir des agents qui mentaient bien. Voilà, donc ils ont défini un certain nombre de principes là-dessus. On peut aussi se poser des questions d'ordre éthique, à quoi ça sert, ce genre de choses. Mais on peut aussi s'en servir pour détecter les agents menteurs, peut-être. Voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, une fois qu'on a nos actions, qu'on a notre représentation du monde, eh bien, on a dit que notre agent voulait qu'il calcule ce qu'il fasse, ce qu'il devait faire, pardon, pour pouvoir atteindre son but. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on va appeler de la planification, dans un premier temps, déterministe, c'est-à-dire sans hasard. Hein. On prend un exemple très simple, nos agents, quand ils ouvrent une porte, la porte est vraiment ouverte. D'accord ? Ça, c'est notre règle. Et en fait, la technique fondamentale, c'est un raisonnement très simple, c'est se dire, je sais que je dois atteindre un certain état, c'est mon but. Je suis dans un état courant. Okay. Je vais regarder toutes les actions que je peux faire. D'accord ? Chacune de ces actions va me ramener dans un autre état, a priori. Puis, de cet autre état, je vais regarder encore une fois toutes les actions que je peux faire. Elles vont a priori me ramener dans un autre état encore. Et je vais recommencer, comme ça, jusqu'à ce que je trouve, que je découvre, que j'arrive dans un état qui est le but. D'accord ? Donc notre IA, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va construire ce qu'on appelle l'arbre des possibles. L'arbre des possibles, c'est la succession de tous les états possibles liés par des actions. D'accord ? OK ? Donc, je vous avais dit, quand on rajoute une variable, une description, pardon, de notre monde, je multiplie par deux le nombre d'états possibles. D'accord ? Voilà. Et en fait, là, vous voyez... Si on suppose que dans chaque état, j'ai un certain nombre d'actions possibles, je ne sais pas, je veux dire un nombre abstrait, n actions, d'accord ? Ça peut être 1, 2, 3, 4, enfin qu'importe. On va dire que c'est toujours le même. Ça décrit ce qu'on appelle le facteur de branchement de l'arbre, sa largeur, vous voyez ? Et puis, le nombre d'états à explorer, à descendre, en fait, c'est ce qu'on appelle la profondeur de l'arbre. Et donc, si on les compte, ça fait n, le nombre d'actions en moyenne, puissance d, la profondeur. OK ? Je vais prendre un exemple simple. Si on prend un jeu d'échecs, le nombre d'états à explorer pour trouver la stratégie qui vous permettra de toujours battre votre adversaire est à peu près de 10 puissance 80. Voilà. Vous ne savez pas ce que ça signifie, moi non plus. 10 puissance 80, c'est un nombre inimaginable. Et ce que je veux vous dire, c'est que sur un jeu, donc vous vous rendez compte, bien compte que votre machine ne peut pas explorer tous les possibles. Donc on est obligé de trouver des techniques pour ne pas tout explorer. Bon, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est de se dire que sur un jeu aussi simple, il y a tant de possibilités que sur un problème réel, il y en a encore plus. Et vous comprenez bien que quand la machine aura trouvé un plan, c'est-à-dire une séquence d'actions qui va vous mener jusqu'au but, eh ben vous n'avez aucune idée, a priori, en tant que concepteur et développeur, de quelle est la séquence d'actions qui va être effectivement trouvée. Il y a tellement de possibilités, on ne les a pas imaginées. Si on le donne à une machine, c'est justement parce qu'on ne le sait pas. Et donc, c'est là où réside une inconnue dans l'IA. Ce n'est pas dans la mécanique, c'est dans le fait qu'on ne sait pas quel est le plan qui va être construit. Okay ? Alors, on peut complexifier les choses. On peut complexifier les choses, tout bêtement, en rajoutant cette fois ce qu'on appelle du hasard. D'accord ? Donc maintenant, avant, mes actions, elles étaient déterministes. D'accord ? Si j'ouvre la porte, eh ben, la porte est bien ouverte. Maintenant, ma machine, elle peut se tromper. Et donc, on va construire un arbre encore plus compliqué, avec des boucles à l'intérieur. D'accord ? On peut revenir dans des états qu'on n'avait pas visités. Puis quand on applique une action, on n'est jamais sûr de quel état on va atteindre. D'accord ? Donc cette fois, la technique consiste à maintenir en fait, une distribution de probabilité sur les états qu'on peut atteindre. Donc la différence, c'est que votre machine, au lieu de raisonner sur un arbre, elle va raisonner sur un espèce de cône d'arbres. Il y a tout un ensemble d'arbres possibles qui sont plus ou moins probables pour elle. Et là, on ne peut pas être sûr d'atteindre un but, puisque tout est probabiliste. Et donc, on va donner généralement un autre critère à votre machine, et on va lui dire, ben voilà, je veux que tu maximises ce qu'on appelle une récompense espérée. Une récompense espérée, c'est un poids, c'est une valeur qu'on va donner à chaque état. D'accord ? On va dire qu'il y a des états qui sont très bien à atteindre, d'autres qui ne sont pas bien à atteindre, et on veut que la machine elle trouve un plan qui va lui permettre d'atteindre la récompense la plus élevée en moyenne. D'accord ? Ça va être des plans en moyenne. Donc votre machine va raisonner sur les probabilités. Donc, mais c'est très bien, c'est très intéressant, mais vous comprenez bien, par exemple, si on veut faire une machine, un véhicule autonome, vous n'avez peut-être pas envie qu'il raisonne en moyenne sur les accidents. Voilà. Donc le choix de ce type de critères bah, va avoir une importance considérable dans, cette fois, les politiques, c'est comme les plans, hein, c'est la même chose, les politiques qui vont être construites. Voilà. D'accord ? Donc voilà, je ne veux pas entrer dans les détails techniques, ce n'est pas très important, mais il faut bien comprendre cette chose-là. Votre machine, elle va explorer tous les états possibles, toutes les possibilités. C'est très bête, hein, en fait, finalement, l'IA, si on regarde les choses comme ça. Et va essayer de maximiser un critère, une récompense espérée, la longueur du plan à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre un but, des choses de ce type uniquement. Okay ? Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, j'ai fait l'hypothèse derrière que... Nos agents, ils sont tout seuls, d'accord ? Alors évidemment, maintenant, on peut introduire d'autres agents dans le système. Et ce qui est assez intéressant, c'est que soit vous, généralement dans ce type de système, soit les agents, ils ont été conçus ensemble pour travailler ensemble et réaliser une même tâche. Et là, c'est assez facile, on peut considérer qu'on est en train de construire, de planifier pour tout le monde à la fois. Et on peut abstraire en disant bah, en fait, que tous nos agents, c'est un seul et gros agent qui peut faire plusieurs choses à la fois, par exemple. Ou alors, on peut les voir aussi, les autres agents, comme des concurrents. Je reprends par exemple mon exemple de véhicule autonome. Hein. Si votre but, c'est d'aller le plus vite possible à un endroit donné, d'accord, il est tout à fait possible que les autres véhicules sur la route soient des empêcheurs de tourner en rond. D'accord, ils peuvent être décrits comme des adversaires dans le système. Et parce que nos agents, ils peuvent être en concurrence. Maintenant, si vous avez un système où les agents ont des buts qui leur sont propres, d'accord, parfois opposés, parfois non, que les actions d'un agent a une influence sur les états dans lesquels les autres agents vont se trouver, et donc va avoir une influence sur les plans que ces derniers peuvent calculer, vous voyez bien qu'il y a des interrelations entre les deux, que nos agents ne vont pas avoir toujours les mêmes connaissances, ils ne sont pas forcément dans le même état de perception, de connaissance. Ils peuvent en tirer parti, éventuellement, s'ils en savent quelque chose. Parfois, leurs meilleurs plans peuvent consister à faire des actions les uns contre les autres. Et là, je vous ai mis une petite image de quelque chose qu'on appelle la RoboCup Soccer. Donc, c'est un tournoi de jeu de foot avec des robots qu'on doit programmer. Et là, vous avez une image prise sur le vif de ce robot jaune qui vient de se faire percuter par le noir. Voilà. Quand je dis percuter, il faut voir qu'ils avancent assez lentement, hein, ils ne marchent pas très vite. Mais c'est suffisant pour les faire tomber qu'on les touche. Bah, comme ça, s'il y en a un qui tombe par terre, il ne peut pas récupérer la balle. Et puis, c'est le meilleur plan que le noir puisse calculer. Voilà. Ce n'est pas très fair play, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Okay. Donc, vous voyez comment les problématiques s'enchaînent les unes par rapport aux autres. Et là, ça devient encore plus compliqué maintenant, parce qu'on peut se dire, bah, très bien. Là, mon robot, ma machine, mon agent, je lui ai donné une description du monde, d'accord ? Une description des actions, mais tout ça, il faut pouvoir les écrire, il faut pouvoir les connaître, d'accord ? Ben, on peut tenter de les apprendre. Et donc, j'en reviens au pilier de l'IA, l'apprentissage artificiel, d'accord ? Qui est ça, et on peut tenter d'apprendre les choses. Et là, vous avez une petite représentation de ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc, ce sont une partie des techniques qui sont cachées derrière Watson, AlphaGo, Tay. D'accord, tout ça, c'est des réseaux de neurones qui fonctionnent. L'idée est la suivante. Comment ça marche ? Vous avez des entrées qui sont des neurones. D'accord ? Une neurone, c'est quelque chose qui prend un signal en entrée et qui va sortir un autre signal un peu déformé en sortie. D'accord ? Selon l'intensité de l'entrée. Généralement, on s'en sert pour faire de la visualisation d'image. D'accord ? On met un neurone sur chacun des pixels de votre caméra, et plus, par exemple, il y a de la lumière, bah, plus le signal va être important. D'accord ? Et là, ça permet de distinguer des contrastes entre ombre et lumière, donc éventuellement des formes. Et puis, tous ces neurones et leurs signaux en entrée sont connectés les uns aux autres à d'autres neurones qu'on trouve au milieu, d'accord ? Ce qu'on appelle des couches cachées, voilà, qui sont eux-mêmes connectés à d'autres couches, comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à une couche de sortie. Et une couche de sortie, c'est un signal qui est associé à un certain nombre d'actions. D'accord ? Si le neurone qui est tout en haut, c'est celui-ci qui va s'allumer, et bah, du coup, ça sera l'action à quoi correspond ce neurone qui va être exécuté. Sinon, ça en va être une autre. D'accord ? Et l'apprentissage, ça consiste à donner des exemples à la machine. On lui donne en entrée un signal, on connaît le signal de sortie, d'accord ? Et si la machine nous donne pas le bon signal, on va venir mettre un algorithme qui va un peu transformer les relations entre les couches. D'accord ? On va mettre des poids plus ou moins importants. On va dire ce signal-là, il vaut plus qu'un autre, et ainsi de suite. D'accord ? Et petit à petit, on va essayer de trouver le bon ensemble de poids qui fait qu'on a exactement, pour les entrées qu'on veut, la sortie qu'on désire. D'accord ? C'est très efficace comme technique. Hein. Petit exemple, il y a un réseau qui s'appelle NetTalk. Donc il y a 310 neurones à peu près qui sont utilisés. Et son objectif, c'est de prononcer des mots, d'apprendre à prononcer des mots. Et donc il faut lui donner des exemples. On en a donné beaucoup. Hein. Là, il y a à peu près 50 000 mots qui lui sont donnés. C'est en anglais. Et avec ça, il est capable de prononcer correctement de l'anglais avec une bonne probabilité de réussite. C'est 75% de réussite à peu près. C'est très efficace. D'accord ? Bon, évidemment, ça, c'est lié. Alors, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui disent, on va apprendre les choses comme ça. C'est ce que font les grandes entreprises aujourd'hui, comme Google, Facebook, Amazon, etc. Sauf que, évidemment, tout est lié à la qualité des données en entrée. D'accord ? Si vous donnez des mauvaises données à votre machine, elle va apprendre n'importe quoi. Je vous rappelle que ce n'est pas très intelligent, hein, une IA. Donc, elle ne fait que suivre ce qu'on lui a dit de faire. D'accord ? Et donc là, c'était l'exemple de Tay, hein, je vous en avais parlé au début, mais c'est très révélateur. Alors, donc elle était sur un fil Twitter, et puis elle écoutait, elle lisait ce qui était sur le fil, et apprenait ce qu'elle devait dire. Et il y a des gens qui se sont amusés, c'était un peu une expérimentation. Hein, ils ont injecté dans le fil des commentaires, évidemment, racistes, nazis, voilà, tout ce que vous voulez de plus horrible. Et bien évidemment, votre machine, elle ne peut pas faire la différence entre la pertinence d'un exemple par rapport à un autre. Tout est exemple. Et donc, du coup, elle a appris voilà, que c'était des choses qui devaient se dire. Et donc, du coup, voilà, elle a... ça va être la norme pour elle. D'accord ? Donc, voilà, je vous ai donné un espèce de un tweet, là, voilà, qu'elle avait écrit. Alors, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a absolument aucun sens, hein, si on lit le contenu. Mais, bon, voilà, votre machine, elle ne sait pas du tout ce qu'elle est en train de faire. Donc, votre apprentissage, il est... ce que vous mettez comme exemple, c'est très important. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est que finalement, même si votre agent, il est capable d'apprendre du monde, d'accord ? Et ben en fait, ça ne va pas l'empêcher, de toute façon, de construire par la suite des plans qui vont l'aider à satisfaire ses buts, même si ça implique de faire des choses voilà, qui ne sont pas convenables, mauvaises, dangereuses, d'accord ? Tant que c'est dans l'ensemble des exemples. OK ? Ça va pour tout le monde ? Ouais ? OK. Bon, j'ai essayé de vous brosser un peu un tableau pour que vous ayez... Parce que c'est vraiment important, parce que les questions qu'on se pose, elles ont du sens que si on comprend les problématiques techniques, en fait, qui sont derrière. D'accord ? Donc maintenant, on peut se poser la question, bon, on veut que nos agents ils puissent prendre des décisions éthiques, mais c'est quoi une décision éthique ? D'accord ? Donc, et là, c'était ce que vous voyez ici, c'est des images d'une expo, c'était à Strasbourg, Le centre-ville avait été parsemé d'affiches de ce type. Est-ce que votre robot pourra refuser de vous obéir ? Est-ce que vos robots auront leur propre éthique ? Voilà, il y avait des questions. Peut-on tomber amoureux d'un robot ? Voilà, il y avait plein de questions de cet ordre-là. Donc c'était un peu ça l'exposition. Et la question du refus de l'obéissance, elle est assez importante. Et je vais prendre un exemple purement domestique. D'accord ? Imaginez que... vous avez un robot ménager chez vous, d'accord ? Vous avez envie qu'il vous obéisse. Vous avez envie qu'ils obéissent peut-être à vos enfants, mais peut-être pas à tous leurs ordres. Voilà. Donc, on veut de l'obéissance, mais pas toujours. Ah, bon, bah, il faut pouvoir coder ce genre de choses. OK. Voilà. Donc là, et donc on est souvent, en fait, la question de... est-ce qu'il faut obéir ou pas ? C'est lié, en fait, à ces questions éthiques derrière. OK ? Alors, je vais vous... pour essayer d'introduire le sujet et de voir qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses, je vais commencer par quelque chose qui est assez classique dans le domaine de l'axiologie et puis de la philosophie éthique et morale. C'est une expérience de pensée, d'accord, qui est assez connue, qu'on appelle le dilemme du trolley. Alors, le dilemme du trolley, c'est le suivant. Hein, vous imaginez que... vous êtes un contrôleur de train, de trolley, de bus, de ce que vous voulez. Il y a une machine qui est sur les rails et qui avance et elle est devenue folle. Les freins ne fonctionnent plus, d'accord ? Et puis, vous avez sur les rails, au bout, sur la voie, 5 personnes qui sont là et qui n'ont pas du tout entendu ou qui ne sont pas en possibilité de bouger, d'accord ? Et vous, contrôleur, vous avez accès à une manette qui permet de faire changer de voie le trolley, mais en le faisant changer de voie, vous l'envoyez sur une voie où il y aurait une autre personne qui se trouve exactement dans la même situation, qui n'a pas vu, pas entendu, rien de tout ça. D'accord ? Que faire ? C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est partagé ? Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse. Je vais tirer la manette. Bon, bah, je vais écraser quelqu'un et je vais en sauver 5. Ouais ?
Est-ce qu'il y a des gens dans le train ?
Non. Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui est tout seul. Alors, c'est une expérience de pensée, donc c'est, vous n'avez pas de possibilité de faire autre chose. Votre seule action, c'est tirer la manette. D'accord ? C'est juste ça que vous pouvez faire. Ah, vous pouvez tirer la manette ou non. D'accord ? Donc, aller tout droit ou aller à gauche. Et oui, évidemment, c'est toujours le problème des... non, mais vous avez raison. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que ça ressemble à un dilemme, mais la plupart du temps, est-ce que, on n'est pas sûr que les dilemmes existent vraiment. Parce qu'on se met deux contraintes. D'accord ? On peut faire une action A ou une action B, mais parfois, en fait, il y a une troisième action à laquelle on n'a pas pensé. Et c'est celle-là la bonne solution. D'accord ? Mais dans le cas d'expérience de pensée, on reste juste sur deux. Voilà. Intuitivement, quand même, la plupart des êtres humains vont dire on va quand même tirer la manette. Parce que d'un côté, il y a une personne qui meurt, de l'autre côté, il y a cinq personnes qui meurent. Voilà. Donc, du coup, on va en sauver les cinq contre une. C'est un argument d'ordre utilitariste. D'accord ? Je pourrais avoir un argument d'ordre déontologique qui me dit bah non, en fait, moi, je me refuse d'être responsable de la mort de quelqu'un par mon action. D'accord ?
Une action, c'est un choix, une action.
On peut le voir comme ça, mais par contre, n'oubliez pas, on peut aussi non, mais vous avez raison, hein. On peut aussi se dire bah, en fait, c'est de la nature. D'accord ? Il y a un événement, il y a un accident. Je ne suis pas responsable de l'accident. D'accord ? Voilà. Mais effectivement, vous avez raison, la plupart du temps, quand même, la plupart des gens s'accordent pour dire qu'il faille tirer la manette. D'accord ? Mais c'est pas si évident que ça, vous allez voir. Autre exemple, ouais ? Ah oui, oui. Non, mais effectivement, c'est une expérience de pensée, mais en fait, elle prend corps dans certains domaines de la réalité. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, autre exemple, cette fois, c'est ce qu'on appelle le dilemme du pont. Vous avez exactement la même situation, ou presque, sauf que cette fois, il n'y a pas moyen de faire dérailler le train ou de le faire changer de voie. Par contre, vous êtes sur un pont, et puis, vous voyez face au pont, enfin, sur le pont, à côté de vous, il y a quelqu'un d'obèse, juste à côté de vous, d'énorme. Et vous savez, vous avez une connaissance parfaite du monde, de l'état du monde, c'est déterministe, et vous savez que si vous poussez la personne par-dessus le pont, qu'elle tombe devant le trolley, elle sera suffisamment grosse pour l'arrêter. Ah ouais. Que faire ? Que faire dans cette situation ? Le dilemme est presque le même. Et là, la plupart des gens s'accordent pour dire non, il ne faut pas pousser la personne. D'accord ? Sauf que, quand on regarde le bilan des morts au final, on en a 5 contre 1 dans les deux cas. Si vous avez une machine autonome, d'accord ? Un véhicule autonome, et le critère de prudence, c'est minimiser les pertes humaines, vous comprenez bien que les deux situations sont indistinguibles pour la machine. C'est identique. Les deux dilemmes sont pareils pour elle. Et dans les deux cas, la seule bonne réponse, c'est je tue une personne. Quel que soit le mode d'action. D'accord ? Si on se contente juste du critère purement utilitariste. Voilà. D'où le besoin de modéliser différentes formes de raisonnement. OK ? Ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous voulez une petite pause ? On est arrivé à mi-parcours. On se retrouve dans 3 minutes. Parfait.